Il reste 2 semaines avant 2026. 2 semaines. On va pas s'emballer. Il ne va rien se passer. Absolument rien. Ou alors presque rien. On va reprendre exactement les mêmes débats, les mêmes thèmes, les mêmes secteurs. On va se congratuler sur l'intelligence artificielle comme si on venait d'inventer la roue, expliquer que l'économie va mal, mais que c'est une bonne nouvelle parce que ça fera baisser les taux. Le malheur économique comme carburant boursier, ce sera un grand classique de cette fin d'année 2025, mais aussi de 2026. On va recycler les mêmes phrases, les mêmes graphiques, les mêmes certitudes. Mais comme ça sera une nouvelle année, on va faire semblant que cette fois c'est différent. Enfin, je vous préviens tout de suite, hein, ça sera pas différent. Ça sera strictement la même chose avec une date différente en haut du PowerPoint. Enfin, si les PowerPoint existent toujours, à cause de l'IA, bien sûr. Et là, on est carrément déjà au milieu de la dernière vraie semaine de l'année. Et plus personne n'a envie d'y aller. La motivation, elle est rangée dans un tiroir. L'enthousiasme est parti en vacances. Et le marché, il est sous Xanax à haute dose. Les 2 dernières semaines vont être longues, mais longues et molles, mais longues et puis pénibles aussi. Mais comme on est des vrais pros, eh bien on va quand même faire semblant d'analyser tout ça. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 17 décembre 2025. Je suis Thomas Veillet et les chiffres de l'emploi sont sortis hier. Bon, entre vous et moi, ils auraient mieux fait de rester au lit, et moi aussi. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Ce qui est bien, c'est que quand on regarde les performances des indices boursiers sur la séance d'hier, ça donne tout de suite envie de rien. Et je crois que ça vaut vraiment pas la peine de trop s'y attarder. Aux États-Unis, le S&P 500 était légèrement en baisse et le Nasdaq aurait dû l'être également. Mais pour une raison que je peine à comprendre, dans la dernière heure de trading, les hedge funds auraient couvert leurs shorts profitant de l'absence de certains gros fonds mutuels. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de nouvelles, c'est que ça fait hyper pro et que ça donne vraiment l'impression que le gars qui t'annonce ça, il est en totale immersion, en totale symbiose avec le marché. Alors, en fait, c'est quasiment impossible de vérifier la véracité de l'information. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hier, on était le 16 décembre et on était plus préoccupé à réécrire la liste des courses pour le 24 décembre qu'autre chose. On a donc pris la nouvelle pour ce que c'était. Les hedge funds ont couvert les shorts et on est remonté sur le Nasdaq. La clôture américaine d'hier soir aura donc été du pipeau de classe mondiale, avec des intervenants qui n'ont plus envie, basés sur des nouvelles qui sont tirées par les cheveux. Tenez, d'ailleurs, j'ai même trouvé d'autres nouvelles qui justifient le rebond de la dernière heure de trading hier soir aux États-Unis. Plusieurs desks macro auraient reçu une info suggérant que la Fed pourrait requalifier certains indicateurs emploi dès janvier, ce qui a déclenché des rachats tactiques de short. Un gros quant européen aurait dû rebalancer en urgence ses expositions américaines après un signal de volatilité mal calibré, forçant des achats en clôture. Des banques d'investissement auraient réduit leur VAR avant la clôture, provoquant mécaniquement des rachats de positions short devenus trop coûteuses en capital. Un assureur américain de taille systémique aurait discrètement renforcé ses couvertures actions, interprétées par le marché comme un signal risk on. Des flux passifs inattendus liés à des ajustements d'ETF factoriels auraient frappé le marché à la dernière demi-heure, sans aucun lien fondamental, bien sûr. Certains hedge funds auraient préféré neutraliser leur exposition avant la publication du CPI de jeudi. Un desk dérivé aurait été forcé de hedger un delta suite à un déplacement tardif de volatilité implicite, créant donc une pression acheteuse artificielle assez logiquement. Une rumeur évoquant une réunion informelle Fed Trésor aurait déclenché des algo headlines sensitives sans aucune confirmation officielle. Vous avouerez, ça le fait quand même, hein? Non? Bah, vous voyez, aucune de ces news ne sont vraies. C'est que du fake. Elles sont totalement inventées. Pourtant, si je ne vous le disais pas, si je l'intégrais à cette vidéo, je suis persuadé que ça passerait crème. Non, c'est simple, c'est que du pipeau, mais juste bien emballé. Ça peut justifier la hausse du Nasdaq hier en clôture. Et d'ailleurs, ça a fonctionné hier avec cette histoire de hedge fund. En Europe, la France a perdu 0,21%, l'Allemagne reculait de 0,63% et la Suisse, elle, elle avançait encore une fois de 0,15%, se rapprochant à petits pas, encore un peu plus près de ses records historiques. Le grand gagnant du jour, c'était l'UBS, la banque suisse, qui a été upgradée par Bank of America et qui termine au plus haut depuis 2008. Mais là encore, le plus dingue dans tout ça, c'est l'explication de la séance en Suisse. Selon les médias financiers, c'est tout simplement passionnant. Regardez plutôt. La bourse suisse a terminé la séance de mardi de peu dans le vert, les investisseurs perdant au fil de la journée la confiance affichée en matinée. Gardons un œil sur les pourparlers de paix en Ukraine, les détenteurs de capitaux ont peiné à tirer des conclusions très claires après la publication d'une nouvelle dégradation de la situation en matière d'emploi aux États-Unis. C'est incroyable, non? Il y a un gars, il a pris le temps de rédiger un communiqué de presse de 380 caractères, espace compris, pour expliquer clairement qu'il ne sait absolument pas ce qui se passe et qu'il suppose que les intervenants eux-mêmes n'en ont aucune idée non plus parce qu'ils ont de la peine à tirer des conclusions. Coluche disait assez justement
« Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule !»
Eh ben, je vais vous dire, je crois que c'est pour ça que je fais ce boulot depuis bientôt 20 ans. C'est pour avoir des matins comme aujourd'hui, comme celui-ci, où tu sens que plus personne n'a envie et que c'est évident qu'on ne sait plus quoi faire ou quoi dire et qu'on a juste envie de plier tout ça, que l'année se termine, mais que tu veux quand même rester pro jusqu'à la fin. Donc tu racontes n'importe quoi. Et tu mobs. Exactement ce que je suis en train de faire depuis 7 minutes et 30 secondes. Non, parce que je vais être très franc avec vous, là tout de suite, la seule et unique chose qui justifiait le fait de venir au bureau hier, c'était effectivement les chiffres de l'emploi. Et effectivement, quand tu vois ce qu'ils ont publié, tu comprends instantanément que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus simple de tirer un trait sur les chiffres de la période shutdown et de recommencer sur une page blanche en janvier avec des vrais chiffres et des vraies données. Plutôt que d'arriver comme hier soir avec les chiffres pourris qu'ils ont annoncés et conclure la publication en disant que les chiffres sont pas très représentatifs à cause qu'ils sont pollués par le shutdown. Ouais, je suis un peu là et énervé et c'est pas les publications du BLS qui me consolent. Bref, si on veut rester pro, on pourra retenir, histoire de meubler les apéros de fin d'année, que le marché du travail américain ralentit gentiment, mais sûrement, le chômage monte à 4,6%, chiffre qui est déjà au-dessus de ce que la Fed attendait pour fin 2025. Autrement dit, le scénario, tout va bien, il commence déjà à se fissurer. Globalement, les chiffres de l'emploi sont brouillons, grosse casse au mois d'octobre, rattrapage partiel en novembre, le privé crée encore des jobs, mais de moins en moins, et la moyenne à 6 mois est au plus bas depuis le Covid. Alors quand on arrive à être aussi mauvais sur l'emploi que pendant le Covid, c'est que c'est pas bon. Pour donner des chiffres, on attendait 50 000 emplois créés en novembre, c'est sorti à 64 000. Jusque-là, on allait plus fort, c'est une évidence, il faut pas se leurrer. Et puis en octobre, on a détruit 105 000 jobs. Oh my god, c'est une catastrophe! Non, c'est pas une catastrophe, c'est parce qu'on a une excuse, hein. Si, on a une très bonne excuse. L'excuse, c'est tout simplement les 105 000 jobs détruits, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est les 105 000 jobs qui correspondent au licenciement du Doge d'Elon Musk qui ont été effectués en début d'année, mais qui sont comptabilisés uniquement maintenant. Alors les gens, ils ont pas vraiment perdu leur job. Si. Ah, mais alors c'est super moche. Non, parce qu'en fait, c'est du passé et ça fait super longtemps. Ah, alors ils ont retrouvé un job depuis. Non, ils ont pas retrouvé de job, mais comme ça fait super longtemps et qu'entre deux, Elon Musk est devenu super riche, et ben ça compense. Non, là tout de suite, vous, je sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. J'ai comme un tout petit doute. En gros, les chiffres de l'emploi d'hier étaient pas bons. Ils montraient clairement que l'emploi ralentit et le 4,6% de chômage fait encore plus mal que les 105 000 fonctionnaires qui se sont fait défoncer par le Doge Department. Le taux de chômage est très gênant pour la Fed. Powell disait que le chômage ne devait monter que d'un ou deux dixièmes. Ben, c'est fait, on est déjà à deux dixièmes. Donc, bonne nouvelle! Chaque dixième de plus, eh bien, c'est une excuse en or pour baisser les taux. Et puis alors, coup de génie final du BLS, si j'osais, ils nous ont ajouté un bonus cette fois parce qu'ils nous ont dit que les données étaient polluées par le shutdown, les coupes dans la fonction publique et un taux de réponse anormalement faible au sondage qu'ils ont envoyé. Conclusion, l'emploi ralentit, la Fed est déjà en retard sur ses propres prévisions, mais personne ne fait totalement confiance aux chiffres parce qu'ils sont pourris, mais c'est de la faute à personne non plus. Résultat, dans la dernière heure de trading, les hedge funds auraient couvert leurs shorts profitant de l'absence de certains gros fonds mutuels. Voilà, je crois qu'il est temps de se casser en vacances et de revenir le 15 janvier pour recommencer à zéro parce que là j'ai l'impression qu'on vit une époque trop formidable et que ça devient trop clownesque. Et comme disait Coluche...
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça... Il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Et dans les autres trucs que l'on peut retenir, c'est que Musk pèse dorénavant 676 milliards de dollars, que Tesla est au plus haut de tous les temps et que c'est à nouveau la meilleure boîte du monde, la plus sexy, avec le CEO le plus extraordinaire, génial. Enfin, les superlatifs manquent clairement, mais que maintenant c'est officiel, on s'en fout et des voitures électriques et on met tout sur les voitures autonomes, sur les taxis automatiques, sur les robots qui font le boulot à notre place. On a tout oublié, ce qu'on n'aimait pas sur Musk et sur Tesla en début d'année, parce que cette fois, c'est différent. Et mis à part Musk, il y a aussi le pétrole qui est au plus bas depuis 5 ans. Trop de production, trop d'offres, pas assez de demandes et Trump qui certifie que le gallon va aller à 2 dollars. Bon là, ce matin, ça remonte un tout petit peu parce que les Ricains sont en train de se friter et que les Vénézuéliens, ils leur empêchent de sortir leurs tankers, blablabla. Le WTI est à 55,84, mais hier, on était à 54,98 au plus bas et du coup, je suis allé faire le plein. Alors je vous confirme, l'essence est à 70 centimes le litre aux États-Unis et le président veut le faire baisser à 50 centimes. Et nous, on est presque à 2 balles. Et même si le prix du brut a baissé de 32% depuis le 15 janvier en Suisse, on se fait... dans les grandes largeurs. Le pétrole est au plus bas, mais nous, on continue à offrir du soutien à nos pauvres pétroliers en difficulté, parce que tu comprends, c'est pas facile de vendre de l'essence. Autrement, le fabricant chinois de puces IA, MetaX, a fait une entrée complètement délirante à la bourse de Shanghai, plus 700% le premier jour après une IPO à 600 millions de dollars. Le message est super clair, la Chine accélère à fond sur les puces IA locales pour se passer des technologies américaines. Salutations amicales à Nvidia et Jensen Huang. Et puis, autre message, si vous avez pensé un instant que la folie de la thématique de l'IA était morte, eh ben, c'était mieux de pas penser. Pendant ce temps, OpenAI discute avec Amazon pour un méga deal, un investissement potentiel de plus de 10 milliards de dollars, de l'argent qu'ils n'ont pas encore, et surtout l'utilisation des puces IA d'Amazon. Rien n'est signé, mais le message est limpide. OpenAI veut diversifier ses soutiens et ses fournisseurs. Et on notera aussi que les montants sont moins flamboyants qu'il y a 2 mois quand ils annonçaient des deals à coût de 100 milliards. Là, on n'est plus qu'à 10 milliards. Et pendant ce temps, l'Asie attend la BOJ, le Bitcoin ne fait rien et on attend les prochains chiffres macro. En même temps, si c'est le même genre de chiffres de ceux d'hier, autant se péter une jambe et passer la journée à l'hôpital. Aujourd'hui, on attendra l'IFO en Allemagne et le CPI en Europe avec une passion et une excitation que j'ai de la peine à dissimuler. Et puis ensuite, on va lancer le compte à rebours pour le CPI américain de demain. CPI qui sera encore une fois calculé par les clones du BLS et donc on devrait avoir droit à la fameuse excuse. Les données sont polluées par le shutdown, les coupes dans la fonction publique et un taux de réponse anormalement faible sur les sondages qu'on a envoyés aux gentils collaborateurs. Et au passage, si on s'ennuie vraiment, on regardera les chiffres de Micron qui seront publiés ce soir. Pour le moment, les futurs S&P sont en baisse de 0,19%. Il semblerait que, selon des rumeurs, des prises de profit discrètes de fonds systématiques déclenchées par des signaux de momentum arrivés en zone neutre pèseraient mécaniquement sur les futurs. Ouais, ça aussi, c'est du pipeau. Mais c'est pas moi qui ai commencé. En résumé, les marchés montent parfois sans raison, l'emploi ralentit clairement, la Fed est déjà en retard sur ses propres prévisions, les chiffres sont officiellement pollués, donc plus vraiment fiables, résultat, on meuble, on recycle les narratifs, on vend du pipeau premium comme de l'analyse macro, et pendant ce temps, Musk est plus riche, l'IA est toujours plus folle, le pétrole est bas, sauf à la pompe, et tout le monde attend le prochain chiffre par réflexe et non par conviction. Conclusion de tout ça, on finit l'année en pilotage automatique, on fait semblant d'y croire et on reviendra mi-janvier pour raconter exactement la même histoire avec une nouvelle date en haut du PowerPoint. Enfin, si les PowerPoint existent toujours à cause de l'IA. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker, de commenter et de partager cette vidéo, mais aussi toutes les autres. Et nous, on se voit demain à la même heure et au même endroit pour parler des mêmes choses, mais en mieux. Allez, bye bye, belle journée.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.